personne accompagnant les voyageurs de bien vouloir descendre. Merci.
À vous peut-être de l'autre côté, derrière votre récepteur, et nous ailleurs, au pied de l'émetteur, entendez ce qui fait battre son cœur.
Vous êtes bien sur Erdiwa. Bienvenue dans Embarquement immédiat.
Il y a quelques semaines de cela, nous avions confié une valise vide à notre toute première passagère invitée, Karine Melzer. Embarquée à bord du 107.5, à destination, souvenez-vous, d'un espace de désert calme où l'on pourrait profiter de l'hiver, Karine décrivait au micro ce qu'elle emportait avec elle. Depuis, elle a proposé cette valise à quelqu'un de son choix qui, à son tour, vient déballer avec nous son nécessaire de voyage. Destination inconnue, embarquement immédiat, bonjour.
Bonjour.
Alors, qui êtes-vous ?
Je suis Stéphane, voilà, habitant de cette planète. Avec grand plaisir, et je suis à Die depuis maintenant 7 ans, avec grand bonheur, et voilà.
Bon,
un Diwa heureux.
C'est ça.
Donc tu es venu avec la valise.
Mais
nous
oui,
sommes dans le train.
Karine et un jour m'a appelé et a dit on se voit, oui, on se voit, ou je l'ai appelé, je sais plus, et puis elle dit tiens, je t'amènerai une valise. Ah, ok, d'accord. Et elle est arrivée chez moi avec la valise, elle a dit bah tiens, je te la laisse et un jour on t'appellera. Ok. Elle a dit oh, tu verras, t'inquiète pas, voilà, ça passera un peu comme ça, comme ça. J'ai trouvé ça génial tout de suite. Enfin, il se passait quelque chose d'exceptionnel dans cette période où les choses exceptionnelles sont pas drôles.
Alors.
Fantastique.
Ça donne envie.
On ouvre la valise ?
Allez, direct comme ça.
Eh ben pourquoi pas.
Ok, moi je commencerai bien par déjà un petit peu de son pour faire monter la pression et l'émotion. Donc voilà, j'ai choisi un morceau.
D'accord, ok.
Et alors,
ça tombe bien, on a un petit transistor, on peut passer de la musique dans le compartiment.
Ouais.
Sympa, on va dire que c'est le Walkman. Le premier morceau que j'ai choisi, c'est le morceau le plus fort pour moi depuis très très longtemps, qui s'appelle Shine On Your Dream. Pink Floyd, quoi. Non, mais qui s'appelle... je me souviens plus le nom.
Shine On You, Crazy Diamond.
Crazy Diamond, voilà. En fait, c'est un morceau qui me sert pour m'évader et sortir du quotidien. Et chaque fois que je mets ce morceau, j'ai l'impression que le domaine du possible est ouvert. Donc c'est pour ça que je me dis que c'est chouette de commencer comme ça, si vous êtes OK.
Ah ben, c'est sûr. Voilà.
On est fan. Avant toute chose, on va commencer notre émission en musique avec cette proposition de Pink Floyd. Shine On You, Crazy Diamond.
La téléportation là direct, en plus avec le son magnifique avec le casque, rien que pour ça je suis content déjà d'être là, d'être venu.
Est-ce que Merci. Tu es confortablement installé pour ce voyage?
Impeccable.
Alors on peut aller très loin avec tout ça.
Et ben, je te propose qu'on commence à ouvrir la valise.
Eh ben allez, c'est parti. Elle est ouverte.
Alors,
effectivement, elle est ouverte. Il y a des petits objets.
Oui.
Hein? C'est une grande valise avec des petits objets dedans.
Des objets qu'on pourrait mettre dans les poches.
Ouais, ouais. Je pense qu'il faut peu. Enfin, en tout cas, moi, j'ai besoin de peu. Donc, c'est représentatif.
Eh ben c'est ça qui compte, hein. C'est ce qui nous intéresse en réalité. Et alors quand t'as commencé à préparer ta valise, tu t'es dit, je vais l'ouvrir et je vais extirper cet objet en premier.
Sept ou sept?
Alors, à toi de voir.
Non, quand j'ai préparé ma valise, en fait, je me suis dit, oh, ça va être facile. Alors, dès que j'ai ouvert la valise, j'ai eu l'impression de sauter à l'élastique. De me dire, waouh, changer de mais qu'est-ce que je vais foutre dans cette valise. Et voilà, au début le premier objet que j'ai mis de mémoire en fouillant c'était le feu, c'était le briquet, parce que je me suis dit si j'ai une valise c'est que je vais quelque part, si je vais quelque part c'est où, donc quelle destination. C'est là où ça a commencé le voyage. Du coup, je me suis dit, j'irai à un endroit où je rencontre, où c'est tout neuf. C'est la première idée qui m'est venue, un endroit neuf. Et si un endroit neuf, j'aurais besoin de quoi au minimum? De l'eau, voilà. Et je me suis dit, de l'eau peut-être. Ouais. Et le feu, ça est venu parce que c'est un élément que je me sens proche tout le temps, le feu. Et voilà, j'ai plein de souvenirs avec le feu chaque fois que je vois un feu ou que je fais du feu dans la cheminée ou dehors et tout ça, il y a toujours une. C'est comme si un ami, on se revoyait à nouveau. Je me sens tout de suite humble et positionné par rapport à quelque chose qui est similaire et à la fois beaucoup plus grand que moi. Donc si j'allais quelque part, je prendrais quelque chose qui me permette de rester avec un copain et voilà, ça serait le feu. J'ai l'impression qu'il me protège.
Avec le feu, vous vous sentez accompagné.
Exactement. Exactement. Ouais. Le feu est un compagnon de route.
Est-ce qu'on peut parler de protecteur?
Ouais. Un compagnon de route, il est forcément protecteur. Donc, c'est à la fois dans l'échange, c'est à la fois dans le respect, dans d'être dans le vrai direct, dans la relation cœur à cœur, on pourrait dire, voilà, je pourrais dire. Du coup, voilà, le feu, puis ça me donne l'impression de brûler le superflu. Je suis beaucoup à la recherche de brûler le superflu, mais j'y arrive pas bien. Mais en tout cas, c'est une longue démarche, et du coup, voilà, je me dis qu'avec ça, On arrive tout de suite à avoir quelque chose de très direct et vrai. Ce que j'essaye dans mes relations avec tout le monde, d'arriver à ça. Donc voilà, c'est une bonne symbolique, le feu. Et puis après, voilà, je suis lion, donc lion, le feu, médecine chinoise, le feu, une prédominance sur le feu. Donc voilà, c'est quelque chose. Et à la fois, ça brûle. Donc je sais que c'est dangereux et quand ça peut me brûler, voilà.
Voilà, le feu.
Le compagnon de route. Eh bien écoute, tu as bien allumé cette émission.
Allumer le feu. Allez, Johnny, j'ai choisi. Non, c'est une blague.
Alors, qu'est-ce qui pourrait accompagner le feu ?
Qu'est-ce qui pourrait accompagner le feu
dans la valise ? L'objet que tu as emmené.
Oui, il y avait une chose qui me paraissait très importante, c'était cet objet-là. Donc c'est une armoirie, ça s'appelle. Donc comme avaient les nobles, nous dans la famille on n'est pas du tout nobles. Et c'est une armoirie où en fait mon père m'avait donné ça, on est 5 frères et avait donné à chacun de ses fils. Mon père qui est complètement, qui était éloigné de tout ça, tout d'un coup s'est mis en quête de rechercher en disant « on vient de quelque part ». Lui qui était très dans l'instant présent et tout ça, s'est dit, plutôt vers la fin de sa vie évidemment, « eh ben je vais rechercher d'où on vient ». Je ne sais pas si c'est vrai, cette histoire est vraie, mais si c'est vrai, cette armoirie, qu'elle est bien liée à la famille. Mais bon, dans la symbolique, c'était très très fort en fait, il voulait nous laisser quelque chose de fort. En plus de ce qu'il nous a laissé. Et donc, il a fini par retrouver en Italie, puisqu'on est de Haute-Savoie. Donc, la Haute-Savoie était italienne à un moment. Et il a retrouvé, quelque part, le mont, notre nom de famille, Pignal, qui était sur un ensemble d'armoiries. Donc. Et du coup, c'était une patte de loup sur un fond noir. Et donc, il a pris la photo. Et derrière, vu que c'était un artiste, il fabriquait beaucoup d'objets. Il nous a fabriqué sur du bois à chacun avec nous a fabriqué cet écusson et donc on a récupéré chacun un écusson avec une patte de loup. Bon, on était très surpris tous les frères et du coup on s'est dit mais qu'est-ce qui nous fait ? Il a pété un boulon. Et en fait, ce truc-là, j'ai jamais pu m'en séparer. Et pourquoi je le prendrai avec moi ? Parce que je le prends avec moi pour ce voyage parce qu'en fait, c'est le lien. À notre histoire, enfin à mon histoire, et je me rends compte que pour savoir où aller, c'est important que je sache d'où je viens et que j'ai une sorte de gratitude vers tous ceux qui sont passés avant moi. Et du coup, ben, dedans, il y a mon père, puis il y a ses parents, puis voilà, on peut remonter loin. Et du coup, ça me rappelle ça. Ça me tient chaud au corps d'avoir cette chose-là.
Et il y a le loup. Cet animal, pour vous, il a peut-être aussi une signification.
Bah oui, le loup, il est fort en symbolique. Il est à la fois celui qui fait peur à l'enfant et à la fois celui qui fait peur au berger, enfin qui a peur pour ses moutons. Et il est à la fois libre dans ses habitudes et dans sa manière de fonctionner, puis fonctionne en meute. Moi, ce que j'aime dans la symbolique du loup, c'est l'être social, enfin l'animal social, c'est la meute, quoi. J'aime bien l'esprit de communauté, et faire partie d'une communauté, c'est ce qui m'alimente. Et donc, du coup, c'est important, voilà. Pas être communautaire, mais faire partie d'une communauté, c'est savoir où est mon seuil de porte.
Et alors, votre communauté à vous, comment elle est composée ?
Ma communauté à moi, bah, elle est composée d'une cellule familiale. Cellule, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais... Bon, d'une unité familiale, d'une famille tout court. Et ben, de ma compagne et de notre fille. Donc j'ai pris aussi un objet que ma fille, juste avant de fermer la valise, a dit « S'il te plaît, tu pourrais prendre ça hein, comme objet. » Voilà, donc j'ai pris un objet qui est une plume d'aigle. Voilà, et cette plume d'aigle... Elle a une histoire.
Alors on veut bien la connaître, n'est-ce pas, Ismo ?
Ah bah là, je suis captivé. Hein.
Et ben cette plume d'aigle, elle est quand Jade, elle s'appelle, est née. En fait, on voulait pas la faire baptiser, mais on voulait qu'elle ait un rituel. Et du coup, de fil en aiguille, nous, on est pas mal portés sur le chamanisme. Et du coup, on avait rencontré quelqu'un, un homme médecine algonquin. Donc algonquin, c'est les Amérindiens, mais Canada. Et du coup, Taminique, il s'appelle. Et Taminique, on l'a rencontré, on l'avait vu, et Anne, ma compagne, était enceinte. Et du coup, il nous a dit, mais pas de problème, on fera un rituel dès que Jade aura un peu moins d'un an. Voilà. Et on a fait ce rituel. Donc, il l'a présenté aux quatre orients. Et à la fin, il lui a donné un nom. Il lui a donné un nom qui est Wabanu Kikwe, qui veut dire la jeune fille qui veut rester debout face à l'Est. Et du coup, voilà. Alors Jade la garde, elle le regarde, mais elle n'en prend pas soin. C'est ça aussi l'enfant qui est... Ça lui dit quelque chose et tout. Mais là, aujourd'hui, juste avant de fermer la valise, elle m'a dit « Tiens, ben, prends ça ». Donc ça m'a beaucoup touché.
Comme quoi, c'est important pour elle, alors.
Absolument, même si elle n'en prend pas soin. Soin, c'est un truc d'adulte.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Les enfants, en général, c'est pas parce qu'ils prennent pas un soin que ça ne compte pas pour eux. Ouais.
Et voilà, je pense que... Puis en plus, j'aurais jamais fait ça si ma compagne n'avait pas aussi poussé à ça.
Donc c'est... là, lorsque... Excuse-moi, j'ai pas été très délicat. Oui. Mais non. Lorsque tu voyages jusqu'à présent, tu as ce compagnon qui est le feu, tu as ton identité qui est véhiculée par ces armoiries, et tu as ta fille qui est présente avec toi à travers cette plume.
Oui. Oui, parce que l'endroit où je vais, c'est un endroit vierge. Alors, je ne sais pas si c'est le désert. J'ai une idée qui m'est venue ici, parce que je me suis dit si c'était la même planète Terre, mais où on recommence. On est les mêmes humains, c'est un double. C'est le double de la planète Terre, tout simplement. À un stade où il n'y a pas toutes ces frictions. Donc un stade où on a un peu une page blanche et à la fois on reconnaît c'est la planète Terre. On n'a pas besoin, vous voyez, d'aller chercher une autre planète et de s'adapter. Et voilà. Non, on recommence à une page blanche avec les constantes de la planète Terre. Et du coup, je me suis dit que pour être le plus ouvert à ce qui se passait, il fallait d'abord que je sois bien dans mes bottes. Et bien dans mes bottes, c'était d'avoir les objets qui me constituent et qui m'ont accompagné le long de ma vie pour m'ouvrir aux autres et m'ouvrir à ce qui allait devenir. Voilà.
Ouais. La communauté qui quand même vous accompagne donc jusque sur cette planète Terre sur laquelle il y aurait tout à refaire.
Exactement.
Et du coup, c'est des échanges que vous avez avec votre communauté, votre enfant, votre sans doute, mais sur justement cette planète et de son état et de là où peut-être vous rêvez d'aller.
Cette planète son sosie, ça serait une planète où on serait délivré, pas de toutes les contraintes, mais on serait délivré de l'état où je pense qu'on est en train de... où on va laisser la planète à... Quand je regarde ma fille, il y a toujours un moment où un enfant, hein, un autre, il y a toujours un moment où je me dis « Merde, ça a merdé, quoi !» Et où je me dis à la fois ça, puis à la fois je me dis « Bon, elle a toute sa vie devant elle, plein d'espoir. » Et à la fois, la troisième truc qui vient, et il dit bah, il va falloir qu'ils soient forts, parce qu'ils vont être bien dans la merde. Donc du coup, il y a ce mélange-là, et je crois qu'il faut garder l'optimisme. Hein. S'il y a une chose qui fait partie du vivant, c'est de pousser à travers les choses, de s'adapter au contexte, et d'aller chercher la vie, et d'aller chercher à continuer. Quoi. C'est vraiment... Et donc ça, c'est l'espoir. Voilà quoi. Et s'il y a un boulot de parent, c'est bien d'apprendre l'adaptation ou de faire transmettre que nous sommes adaptables et d'être le moins rigide possible. Donc oui. Oui, je pense que la planète, la deuxième planète, là, la sœurette, je pense qu'il faudrait que nos enfants puissent y habiter. Et je pense qu'ils sont en train d'apprendre. C'est tellement dur ce qui arrive. Qui sont en train d'apprendre, donc qui sont porteurs d'espoir.
Voilà, donc ils sont importants pour ce voyage parce que c'est vrai que c'est sans doute eux qui vont nous...
C'est l'espoir qui fait avancer.
Absolument.
On est dans un train qui avance.
Ouais. Voilà. Ouais.
Alors, sur cette planète Terre toute nouvelle, là, qu'est-ce que vous emmenez d'autre ?
Eh ben, j'emmènerai. Je commencerai à faire écouter à ma communauté Yo-Yo-Ma.
Ah, c'est voilà. Un japonais.
Il est français. Il est français, mais il est d'origine parent chinois, mais asiatique, donc tu as raison. Et du coup, il est Yo-Yo-Ma. Il a quand même une histoire. Moi, je l'ai rencontré. J'ai rencontré sa musique. Voilà, j'ai écouté peu de classiques. Puis à un moment, je me suis mis au. J'ai écouté différents. Le classique, c'est large. Et puis en fait, j'ai été rapidement captivé par. Alors, la première approche, c'est souvent Mozart, Chopin. Puis bon, ok, c'est accessible, voilà. Puis au bout d'un moment, ça m'a paru redondant et c'est prétentieux, mais bon, c'est ce que j'ai ressenti. Et voilà, et je me suis dit, mais finalement, la plupart des gens qui jouent du Mozart et tout, ils sont en train de essayer de retrouver comment Mozart a pu, comment à l'époque il avait joué ce morceau-là à l'origine, quoi. Voilà, comment le cover peut s'approcher du titre original et de son auteur qu'il a composé. Et en fait, à un moment, je suis tombé, je me souviens plus comment, je crois que c'est à une médiathèque à Paris, et j'ai vu Yo-Yo Ma, inspiration de Bach. J'ai dit, ok, d'accord. Et j'ai écouté, j'ai été subjugué parce que j'ai reconnu les suites de Bach. Et en fait, je me suis dit, le mec, il prend les suites de Bach, il s'inspire. Et il les défrise, quoi. Je sais pas, il les dématte, quoi.
Il les tord
sans les trahir. Et je me suis dit, quel culot, quoi. Mais le mec, il est trop fort, quoi. Et donc, de temps en temps, quand je suis en peine d'inspiration ou de créativité, ce qui arrive hein, souvent, du coup, je me mets Yo-Yo Ma voilà, peut-être qu'on peut écouter un petit peu de Yo-Yo Ma.
Avec plaisir. Je vois que tu as choisi un morceau qui s'appelle Prélude.
Oui, c'est un prélude au voyage.
Parfait. Yo-Yo Ma.
Thank you.
Prélude, interprété par Yo-Yo Ma. C'est important la musique pour toi ?
Ah, pour moi c'est... sauf quand je mange. Mais sinon c'est tout le temps. Enfin quand je dors ou quand... Évidemment, mais j'aime pas m'endormir avec la musique parce que je me sens fidèle à la musique. Donc j'ai besoin d'être présent à la musique. Donc m'endormir avec la musique ça va pas. Manger avec la musique je peux pas. Non, je suis trop épicurien et trop... C'est comme s'il y avait une distorsion qui venait. Donc oui, la musique, c'est la symbolique, elle est forte. La musique de l'intérieur, la musique de l'extérieur. Mon prof de yoga dit un courant sonore. J'adore un courant sonore. Mais oui, il a raison. C'est juste de la vibration. Voilà.
Quels sont tes endroits à toi de création ?
Moi, mes endroits de création, c'est le... Il faut qu'il y ait un prélude. Il faut qu'il y ait le prélude, c'est il faut qu'il y ait un... je me nourris dans le relationnel. Donc j'ai besoin d'avoir un... de savoir quand je rentre dans la communauté ou dans l'amitié ou quelque chose, de savoir où on en est chacun, d'avoir une base stable. Et du coup, de cette base stable, de pouvoir de me mettre totalement le plus possible en disponibilité à la relation et aux autres. Et c'est là où le... où c'est là où le domaine du possible est, pour moi est infini. Et, j'aime bien cette analogie avec l'aïkido. L'aïkido, en fait, il y en a un... Quand on voit ça de l'extérieur, il y en a un qui est plus fort que l'autre, qui impose à l'autre, et l'autre qui s'abaisse. Et voilà. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Ça, c'est la forme extérieure. L'aïkido, pour moi, c'est... j'ai pratiqué une dizaine d'années. Du coup, c'est... chacun arrive avec son état... Il y a une thématique qui est donnée, un contexte. Oui, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va aller au sol, puis qu'il y a un autre qui sera dessus. Mais ce n'est pas ça l'important. C'est que chacun arrive avec son humeur du moment, répond au contexte, s'adapte. Et de ces deux chemins-là naît une troisième voie. Une troisième voie où le domaine des possibles, où c'est ni l'un ni l'autre. C'est les deux et un espace-temps qui se crée. Et là, c'est créatif.
La rencontre, du coup, comme un endroit de création, un moment de création.
Absolument. Absolument. C'est pour ça que si j'allais à un endroit, je ne pourrais pas être seul. Si j'allais à un endroit dans ce, sur cette deuxième, sur cette serrette planète, cette serrette bleue, la première chose que je ferais, c'est, au-delà de subvenir à mes besoins, c'est d'aller à la rencontre d'eux. Voilà, et aller à la rencontre d'eux, c'est de se débarrasser pour moi du superflu et de retrouver de mon nombril et de retrouver une ouverture aux choses, une ouverture à ce qui se passe. Voilà, comme sur le chemin de Compostelle.
Alors,
je vois qu'en disant ça, tu saisis un nouvel objet dans la valise. Donc j'imagine que habilement et subtilement, tu essaies de faire une transition vers ton prochain objet.
Alors, je ne l'ai pas prévu, mais c'est vrai que ça tombait bien. J'avais pas prévu la transition, mais oui, en effet, Compostelle, c'est un sacré truc, ça, parce que...
Excuse-moi, en fait...
Qu'est-ce que c'est que cet objet ?
Parce que, pardon. Comme oui, on est à l'antenne, les gens, ils ne voient pas forcément...
Vous voyez pas cet objet, mince, putain, il est important.
Pas nous, oui.
Alors, ça s'appelle le crédential. Le crédential, c'est simplement une sorte de passeport qui au départ, paraît ridicule, mais qui permet de dormir tous les soirs. Le chemin de Compostelle, c'est un chemin composé d'étapes. Et il y en a plein. Il y a le vrai, le pas vrai, le presque vrai, le peu importe, en fait. L'idée, c'est de rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle et de partir d'un endroit pour rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle. Et après, on peut aller plus loin jusqu'à la mer, jusqu'à Finisterre. Donc, on peut continuer un tout petit peu. Qui est le point le plus à l'ouest de l'Europe.
Donc c'est une sorte de passeport ou de...
Absolument. Ou de... C'est un passeport, et voilà, c'est un carnet. Et à chaque fois qu'on arrive, chaque soir, donc c'est des étapes d'une journée. Et donc, on doit le présenter pour pouvoir dormir hein, et à l'endroit. C'est quand même important après 7 heures de marche, 5 à 7 heures de marche. Et du coup, la personne, l'endroit met un tampon et on est accueilli. Et c'est vrai qu'à la fin, le dernier tampon, c'est celui de Compostelle. Donc il y a quelque chose dans l'accomplissement, quoi.
Alors, est-ce que vous l'avez, ce tampon de Compostelle ?
Ah bah oui, sinon je ne l'aurais pas. Non, oui, j'ai le tampon de Compostelle, mais bon, c'est pas l'aspect de finir. j'ai amené cette chose-là, elle me serait... Parce que si j'étais sur cette planète, j'essaierais d'aller d'étape en étape et de rencontrer et d'aller à la rencontre de ce qui arrive, et sans savoir vraiment, d'avoir juste un trajet, mais pas savoir de quoi il sera fait. Compostelle, c'était ça. Il y a eu un avant et un après Compostelle, et qui n'a pas à voir avec le religieux, mais qui a à voir avec le mystique que j'ai en moi et qu'on a en chacun de nous.
Moi, ce que j'entends derrière ce voyage à Compostelle, ça peut être une forme de quête, de voyage également, comme actuellement on est dans un train et on parle de plein de choses. Mais je perçois ça, je perçois que dans ce que tu nous as exposé, tu as ton compagnon de route qui est toujours là avec toi, le feu. Tu as cette musique qui est importante pour exister. Tu as ton identité que tu véhicules avec toi. Et puis tu as ce parcours après qui... Enfin, je vois une terrible logique dans la succession des événements qui se dévoilent devant nous.
Eh bien, écoute, je suis content que tu vois cette logique. C'est vrai que c'est une version... ça tient la route. Après, j'ai pas trop réfléchi à ça dans le sens itinéraire, mais oui, tu as raison, en fait.
Et la marche, c'est vraiment un moment de peut-être de méditation, de réflexion. C'est là qu'il se passe des choses sans doute importantes qui permettent de continuer à avancer. C'est là qu'on prend des décisions, peut-être.
Alors, l'avion...
Qu'est-ce qui se passe au moment de la marche pour vous ?
L'avion, c'est terrible. J'ai peur en avion. Et en fait, pendant des années, je me suis dit, il faut que je me soigne quand je devais prendre un peu l'avion pour le boulot. Et du coup, l'avion, en fait, ce qui me gêne, c'est le téléportage. Oui, j'ai peur d'être en l'air, mais c'est pas que ça. C'est cette violence de... Tu pars d'un endroit et tout d'un coup, tu descends de la capsule et t'es à un autre endroit. Et là, c'est une adaptation brutale. Donc voilà, après, je suis allé pendant 7 ans en Grèce, plusieurs fois dans l'année, pas que l'été. Du coup, j'ai un objet par rapport à la Grèce. Et du coup, en Grèce, j'y suis allé à chaque fois en train plus bateau. Donc le bateau, c'est aussi extraordinaire. Ça va à un certain rythme. Il y a ce côté dépaysement, mais il y a ce côté où petit à petit, les langages changent, la culture change. Voilà, il y a un rythme plus humain, c'est moins téléporté. Et puis après, j'ai pris le transsibérien de Gare de l'Est jusqu'à Pékin sur un mois et demi. Et du coup, le train, pour traverser 7 fuseaux horaires, eh ben, c'est long. On ne sait plus quand c'est l'heure de manger, d'aller faire caca. Tout est mélangé. Le seul point de repère, c'est son organisme. Et son rythme, le rythme de son organisme. Et là, je me suis dit, ouais, c'est génial et tout, c'est introspectif et tout, mais il y avait encore quelque chose qui n'allait pas. Et le jour où je me suis octroyé cet espace sur un mois et demi d'aller marcher à Compostelle, je suis allé à Compostelle simplement parce que je savais où on allait dormir tous les soirs et ça me rassurait. Et je me suis dit, je me débarrasse du côté logistique et tout le reste, je suis ouvert, je suis sur cette deuxième planète. Et bien la marche, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Parce qu'en fait, c'est simplement un rapport à notre physique. Dans le train, j'ai fait que grossir et que boire de la vodka, presque. Et, dans l'avion, dans le bateau, on se fait chier. Du coup, la marche, mais en fait, la marche, c'est pas la randonnée. Je parle pas de la randonnée. Mais la marche au long cours, ce qu'on appelle, spéciale dédicace à mon ami Philippe Léaumonnier, avec qui on parle beaucoup de ça, et qui est un grand érudit sur cette question-là. Et ben, justement, la marche, c'est marcher à son propre rythme. Et c'est aller vers l'inconnu de soi-même et aller et du coup s'ouvrir à tout ce qui va se passer et d'aller toucher des endroits où on est très très épuré, où on n'a rien, où on n'a besoin de rien, on n'a même pas besoin de valise. On a juste besoin de se reconnecter à quelque chose qui a toujours été présent et qui est là et qui est le domaine de tous les possibles.
Et oui, puis dans la marche, il vaut mieux se débarrasser du superflu parce que le sac à dos risquerait d'être lourd.
Tu as absolument raison, c'est l'enjeu d'avant le départ de Compostelle, c'est d'avoir le sac le plus léger, donc le rasoir niette, quoi. C'est pour ça que les mecs qui rentrent de Compostelle, ils ont tous une grande barbe. Donc du coup, c'est simplement qu'un rasoir, c'est 130 grammes. Et 130 grammes, c'est très très lourd sur 1000 km.
Est-ce qu'il y a une rencontre que vous aimeriez décrire à l'instant à ce micro-là, une des rencontres que vous avez faites pendant ce voyage jusqu'à Compostelle? Quelqu'un qui vous aurait marqué et qui aurait peut-être inspiré la suite de oui. votre vie?
Oui, j'ai eu une entorse à Porto et j'ai cru qu'il fallait que je revienne, pas une entorse, une tendinite. J'étais parti un peu vite. Tout le monde dit il faut partir doucement. Donc moi j'ai fait Compostelle depuis Lisbonne, depuis le Portugal. J'ai remonté côté portugais, je ne voulais pas entendre parler français. Donc je voulais vraiment être dans un univers où je ne pouvais pas copiner, puisque j'ai tendance à ça, à aller dans la relation. Où voilà. Du coup, j'ai rencontré à Porto un homme tout de 84 ans, italien, et qui était avec un slip immaculé, donc on est dans les douches hommes, et je le vois avec ses petites claquettes à la romaine et son slip blanc immaculé, 84 ans, comme un Apollon, quoi. Et donc je lui dis, mais comment vous faites pour faire Compostelle? Ça va, c'est pas trop dur? Oh, moi je le fais chaque année. Wow, ok, d'accord. Et je lui dis, est-ce que vous auriez un conseil? Il me dit, ouais, j'ai deux conseils à te donner. D'abord, quand tu fais Compostelle, il faut que tu partes le matin comme un vieux pour arriver le soir comme un jeune. Ah ouais, ok, pas bête, c'est vrai, ça, on me l'avait dit, j'ai pas respecté. Et deuxième chose, sur Compostelle, si tu veux rester jeune toute ta vie, eh ben, reste le plus souvent, passe des moments avec des gens jeunes. Voilà, du coup, c'est cette rencontre-là qui m'a le plus marqué, qui est la rencontre avec... moi, j'étais en compote et lui, il était en pleine forme.
Bon, merci pour ce récit.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour votre confort, un espace de restauration est à votre disposition dans la voiture numéro 14 au centre de ce TGV.
Ah ben, ça vous dit un petit café, un petit thé?
Ah, bah ouais, je pense que c'est le moment.
Hein. Ouais, avec plaisir.
J'espère qu'il y en aura sur cette planète. 10.
Bah en tout cas, dans le train, là, pour l'instant, il y a encore ça.
Il y aura le train, c'est sûr.
Comment vous vivez, vous, cette période de crise sanitaire, politique, sociale? Quel regard vous avez sur ce que nous vivons tous ensemble? Enfin, ensemble, tant, peut-être pas tant que ça.
Ben je vois que depuis très très longtemps, il y a une partie de l'espèce humaine qui veut dominer l'autre partie de l'espèce humaine. Et cette espèce humaine, elle se nourrit sur l'autre. Cette partie de l'espèce humaine qui veut dominer se nourrit sur l'autre, quoi. Donc je sais pas où ça a commencé. Je sais pas si c'est intéressant de savoir où ça a commencé, mais moi je le vis comme quelque chose une forme de dégénérescence. Et voilà, j'avais un peu bouquiné à un moment, je suis pas un grand bouquineur, mais j'avais bouquiné sur les Mayas, les choses comme ça. J'étais intéressé, voilà, c'est en lien avec les Amérindiens, les peuples premiers, les peuples racines. Et du coup, j'avais découvert qu'une civilisation, elle disparaît à un moment. Donc du coup, et à la fois, j'arrive pas à l'accepter. Donc je vis ça comme une... Je vis ça comme une forme d'impuissance. Et je vois que même au niveau du Diwa, où on est quand même... quand j'écris à mes potes parisiens, je leur dis, venez quand vous voulez, Diwa, terre d'abondance et de solidarité. Ça fait un peu... peut-être que l'Office du tourisme pourrait reprendre ça, non? Mais bon, du coup, je me dis que même dans le Diwa, c'est pas si simple, quoi. Qu'on s'entend pas tous bien et qu'on a pas mal de différents et que ces différents là sont pas générateurs non plus de quelque chose de ce microcosme ne crée pas une terre autant d'abondance que ça. Donc moi je vis ça comme j'ai envie d'apporter ma pierre modestement à que ça aille mieux, mais je me sens un peu en errance. Voilà, je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai. Je suis privilégié, mais mais j'ai l'impression de pisser dans un violon, quoi. Et à la fois, j'ai pas envie de faire partie de l'équipe maître du monde. Donc, je me sens dans une errance. Et je sais pas non plus, quand je regarde ma fille, comment ne pas transmettre ça ou comment lui transmettre ça avec un espoir absolu. Voilà. Voilà comment je me sens. Après, je suis une nature optimiste. Donc, je me dis que je me dis qu'il y a quelque chose qui va sortir de tout ça. Il y a un super-héros. Ou des super-héros qui vont, voilà. Mais bon, c'est une sale période. C'est une sale période.
Alors, des gens en errance actuellement, je crois qu'il y en a un paquet. Hein. Je crois qu'il y en a un paquet. Et des gens optimistes aussi. Hein. Et puis, en général, quand on est en errance, y a toujours des choses qui nous accompagnent, comme la musique. La musique, ça nous accompagne lors de l'errance. Et c'est pour ça que je te propose un petit morceau musical.
Absolument.
Pour accompagner notre voyage.
Grand plaisir.
C'est le Love Train, le train de l'amour. Hein?
Yes.
The Old Jays, version un peu soul, quoi.
Excellent. Ça fait du bien.
Ouais, c'est vrai. Merci.
Un petit peu de soul.
Stéphane, qu'est-ce que vous emmenez d'autre pour ce voyage que vous avez choisi de faire avec nous?
Ouais. J'emmènerai quelque chose. Là, j'ai pris quelque chose qui. Donc, c'est une symbolique, hein, mais un ticket de métro. Parce qu'il y a quelque chose qui me motive depuis tout petit, c'est tout ce qui est transport, mobilité, et voilà, tout ce qui est déplacement. Et donc, chercher une symbolique sur le déplacement. Et j'ai trouvé un ticket de métro, bon, c'est aussi un petit clin d'œil à Paris. Je ne suis pas originaire de Paris, mais où j'ai vécu 10 ans et où c'était des années complètement folles pour moi. Et du coup, si j'arrivais sur cette deuxième planète, il faudrait que j'apporte quelque chose. Et si j'apportais quelque chose, j'apportais quelque chose autour du déplacement, de la fluidité. je contribuerai à ça en tout cas, puisque c'est ce que je porte en moi. Donc j'apporterai ça. Et du coup, voilà pourquoi le ticket de métro. Ce serait, j'arrive à cette planète et ça serait une sorte de carte d'identité. Peut agir sur la mobilité et les déplacements sur cette planète.
C'est amusant parce que c'est toujours dans l'évolution des choses que tu nous présentes. C'est-à-dire suite à cette carte, à ce passeport de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui représente en soi un voyage, un déplacement, vient ensuite le ticket matérialisant en fait cette façon de voyager quelque part. Peu importe la façon, mais en tout cas le concept de se déplacer d'une manière fluide, c'est ce que j'entends. C'est un truc qui existe chez toi depuis longtemps.
Ah ouais, le déplacement, c'est la liberté de déplacement, c'est quelque chose qui est... c'est d'avoir la possibilité... Qu'est-ce qui fait que les gens utilisent leur voiture ? Franchement, si un martien atterrissait ici et qu'il voyait que les humains prennent 1,5 tonne, c'est le poids d'une voiture, 1,3 tonne, en mettant une seule personne à l'intérieur de 60, 80 kilos en moyenne et que ça serve à déplacer, il se dirait elle est débile cette espèce. Ben, qu'est-ce qui fait qu'on soit autant dans cette aberration de se déplacer un par voiture ? Eh ben, c'est simplement que ça nous transporte de porte à porte. Qu'est-ce qui peut ? Dès qu'on a envie, hop, on saute dans sa voiture et on va quelque part. On va au magasin à 100 mètres. Mais si demain, je décide d'aller à Barcelone, bon, bah, je prends ma voiture. Donc voilà, c'est quelque chose de... Donc la liberté de se déplacer, la liberté tout court, pour moi, c'est ça, quoi.
Et quand tu étais enfant, tu faisais du skate ou du roller ou du vélo
Non. Non, quand j'étais enfant, moi j'inventais des circuits.
Ah oui.
Voilà, j'inventais des parcours et des circuits.
Genre des circuits de Formule 1 par exemple, dans les jeux qui...
J'étais à la campagne, au milieu de la forêt, j'inventais un circuit qui n'était pas un parcours du combattant, hein, qui était un truc où on passait si possible d'univers en univers. Donc voilà, on avait la possibilité de passer d'un espace à un autre, voilà.
Sympa ça.
Ouais, le déplacement, et puis là c'est le déplacement en commun, quoi, ensemble, puisque ce qui semble quand même être un peu au cœur de nos préoccupations, ça. Comment
le covoiturage.
Le covoiturage, partager la route.
Bah oui, parce que partager la route, partager le chemin, voilà, on retombe dans les symboliques fortes. Seul c'est pas possible et à plusieurs c'est compliqué, donc autant que y ait des moments seuls et que le reste d'être le plus souvent à plusieurs. Voilà, donc moi tout ce qui favorise d'être à plusieurs pour qu'il y ait cet espace de construction et de création, c'est important. Donc voilà, il faut pouvoir se déplacer pour se rencontrer, pour échanger, pour vivre des choses fortes.
Absolument, et tout se regroupe dans tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est intéressant.
Ouf. Non, je rigole.
Et il reste des objets alors dans cette valise, hein.
Ah oui. Et oui, c'est le dernier objet. Alors c'est l'objet c'est une croix grecque. Voilà. Donc la Grèce, la croix, parce que je suis plutôt un être spirituel comme tout le monde, hein, mais je ne suis pas religieux. Mais la croix grecque, parce que la religion en Grèce, c'est quelque chose d'incroyable. C'est la vie vraie, c'est-à-dire quand j'ai observé les Grecs dans une église, ben, ils parlent, ils téléphonent. Bon, il y a un moment où il se passe quelque chose. Pourtant, ça s'appelle l'orthodoxie. Hein. Orthodoxe, ça veut dire rester droit. Donc la droiture, j'ai eu l'impression que c'est quelque chose d'amical et on se revêtit pas forcément avec ses beaux habits pour voilà. Donc j'ai pris ça parce que pour moi ça symbolise la Grèce, et la Grèce c'est tellement fort, c'est une rencontre à travers une personne, et cette personne là elle fuyait la Grèce pour vivre en France, et en fait on s'est rencontrés, et du coup moi j'avais qu'une envie, c'est d'aller en Grèce. Et pourquoi la Grèce ? Ben parce que c'est les îles, c'est le rapport au voyage, une nouvelle fois, ce que je disais tout à l'heure à pied, ben les Grecs c'est en bateau, quoi. Dès qu'ils sont à un endroit et qu'ils ont besoin d'aller à un autre endroit, ben ils prennent le bateau, et On va vers quelque chose où on ne voit pas encore où on va arriver et où il y a cette immensité bleue. Et voilà, c'est aussi la Grèce parce que c'est un endroit qui est très positif, j'ai trouvé, malgré tout ce qu'ils ont vécu ces dernières années, et voilà, où l'Europe a pas été, les autres n'ont pas été sympas. Et ben, c'est un peuple résistant. Voilà, j'ai appris que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ben, la Crète, les Allemands se sont cassés les dents 5 ou 6 fois sur la Crète, n'ont jamais réussi à envahir la Crète. Pourtant, c'est pas très grand. Voilà, donc il y a des constantes en Grèce qui font que si j'allais sur cette planète serette, je suis sûr que des constantes grecques, qui ont quand même, les Grecs ont inventé la démocratie, en tout cas, qui ont, voilà, serait important pour reconstruire quelque chose de neuf. J'ai vraiment ce sentiment-là, quoi.
Parce que l'héritage grec, c'est quand même pas anodin non plus, hein. Dans notre culture, c'est quand même assez présent, je pense.
Bah nous, on est mélangés, hein. Latin-grec, hein, on navigue de l'un à l'autre, quoi. Mais enfin, moi, j'ai l'impression de ça, en tout cas pour moi. La Grèce, c'est pas un hasard si on y va tous autant, pour ceux qui aiment bien y aller. Enfin, moi, j'y suis pas allé depuis 7 ou 8 ans. J'ai une rencontre à nouveau à faire avec la Grèce après ce moment de pause, mais ça ne m'a jamais quitté. J'ai toujours un clin d'œil pour ces gens-là qui parlent fort, on dirait qu'ils s'engueulent. Maintenant, ils sont juste en train d'échanger des choses incroyables et tout. C'est pour ça que je me suis mis à parler grec, à apprendre le grec moderne, parce qu'il faut participer, quoi. C'est le logos, c'est le discours, c'est l'art du discours où on pourrait dire que c'est n'importe quoi, mais c'est jamais creux. C'est très rarement creux, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose de fort pour moi, la Grèce. Voilà.
Et puis c'est très méditerranéen, de toute manière, cette façon dont tu parles, de parler fort. De...
La bouffe, fort, le côté épicurien. Et voilà, je me souviens d'un voyage il y a 3 ans en Finlande. J'ai rien. C'est très sympa, la Finlande. Mais bon, voilà, ou en Russie,
c'est différent.
C'est vraiment très différent. Hein. C'est quasiment. Pas 2 espèces différentes, mais en tout cas, c'est fort. Donc oui, je prendrai, je me nourrirai sur cette deuxième planète de tout ce que j'ai vécu sur la Grèce et à travers surtout les Grecs qui font la Grèce.
Waouh.
Bon.
Eh ben, franchement, c'était un beau contenu de valise que tu nous as présenté là.
Je sais pas, j'ai l'impression que vous étiez déçu qu'il n'y ait pas beaucoup de choses.
Donc... Ah ben non, pas du
tout. Ah non, là il y a plein de choses qui. À mon avis, c'était parfait, quoi. Il y avait tout ce qu'il faut, quoi.
Bon, j'espère qu'on va trouver cette planète.
S'il vous plaît, suite au problème sur notre TGV, le mécanicien qui devait reprendre notre TGV est absent. Donc nous sommes en recherche de personnel pour conduire notre train. Nous reviendrons vers vous pour d'autres informations quant à la suite de notre voyage. Voilà, merci de votre compréhension.
Eh bien, Stéphane, je crois
que ça... Ça, c'est bateau, hein, oui, mais... ballot. Il n'y a plus de conducteur pour conduire le train.
Oui, et je crois que ça tombe plutôt bien, puisqu'on pourrait proposer à Stéphane de rejoindre la locomotive de tête pour peut-être...
Viens, on va prendre le contrôle du train.
À l'attaque.
Qu'est-ce que t'en penses?
De prendre la tête de la locomotive? Ouais. Ouais, à plusieurs, alors. Hein. Bon. Pas seul.
On y va tous les trois.
Allez,
c'est parti.
On y va. Allez. Eh ben écoute, on y est.
Bah oup.
Stéphane, où est-ce qu'on va?
À la destination.
Ouais.
Ah bah c'est clair, alors on va tout droit, on tourne à gauche, et une fois qu'à gauche on prend le tunnel, et à la sortie du tunnel on est arrivé à cette planète sœur, qui s'appelle la planète bleue.
La planète bleue, la planète sœur.
Voilà, et puis on est pour l'instant tous les trois avec le contenu de ta valise, donc toute ta communauté. Et à nous d'aller maintenant, je crois, à la rencontre de celles et ceux qui habitent cette planète, parce qu'elle n'est pas déserte.
Ah bon? J'espère.
Merci Stéphane de nous avoir emmenés en train vers ta destination.
Merci à vous.
À bientôt.
Eh ben ouais, vive Erdiwa. Restez longue vie à Erdiwa et à ceux qui le font.
Bonne suite de voyage.
Et à celle.
You must take the A train to go to Sugar Hill way up in Harlem.
C'était Embarquement immédiat, une émission proposée par Ismo et Vincent.
pour RDIWA, la radio du Diwa.
À bientôt.
Get on the A train. Soon you will be on Sugar Hill in Harlem.
You take your baby to Harlem. You're bound to find the hole up on Sugar Hill, where everyone's having a solid ball. You board that A train and then you ride till you dig this number, 145 Street, where all the cats meet, posing on the stroll. Pops are really in there. That's the grip that the bands all play. It's groovy, the hep cats say. Then you know that you're in Harlem.
You got to get on that
A-train, and you will get a thrill. Yeah, if you're looking for a rhythm, you'll find it on Sugar Hill. Now that you know just how to get up that beat up a nickel and you got your bell. If you want to go to happy Harlem, you take the A train that goes uptown and ride, ride, ride. Wait until you get on Sugar Hill. You jump for joy till you get your fill. Have you got your nickel in your hand? Then hurry, don't you miss that train, oh man.
You
yes, you
must take the A train.
That A train, that A train. You make it on time.
Go to Sugar Hill way up in Harlem.
Harlem.
Better hurry.
Hurry, get aboard that.